de pouvoir rentrer un peu dans un sujet. Alors voilà, là j'ai pour que Aude soit rassurée, je viens de lancer l'enregistrement. Peut-être que ce que je voudrais faire aujourd'hui, simplement pour commencer, avant qu'on prenne un peu le texte que j'avais envoyé, c'est un peu une introduction de méthode, en fait, parce que c'est un peu le problème quand on s'adresse à un sujet. Alors c'est pour ça que moi j'aime bien demander aux gens pourquoi ils sont là, parce qu'après tout, on peut être là parce qu'on s'intéresse à quelque chose, on peut être là parce qu'on est intrigué par quelque chose, on peut aussi être là parce qu'on ne s'intéresse pas du tout à quelque chose. Donc ça, tout est possible. Mais quand même, la question qu'on se pose, ou qu'on ne se pose pas, elle compte quand même dans l'approche de l'objet. Voilà. Alors, moi, je ne me rappelle pas très très bien pourquoi, comment est-ce qu'on a pu avoir eu cette idée absurde de faire 5 séances sur les reliques. En fait, bon, vraiment, je ne me rappelle pas. Mais peut-être commencer comme cela. Le sujet en soi, en fait, est difficile. En soi, il est difficile. D'abord parce qu'à ma connaissance, mais je peux me tromper, il n'existe pas vraiment d'ouvrage de synthèse sur la question. Donc, ça veut dire que c'est dispersé. Peut-être parce qu'on est parfois mal à l'aise. Oui, je vous raconte cette histoire-là. Lorsque je vivais à Rome, moi, un jour, je suis allé à Padoue. Bon, à Padoue, on vous montre dans une des églises de Padoue, tout simplement les reliques de l'apôtre Saint Matthias. Donc, si vous ne saviez pas où était Saint Matthias, eh ben, c'est simple, il est à Padoue. Et comme c'est des gens sérieux, vous avez tout un panneau qui vous explique. Pourquoi on a quelle dose de probabilité on a qu'il s'agisse de Saint Matthias ou pas présent ici? Pourquoi pas? Quand je suis rentré à Rome, j'ai raconté cela à un historien que je connaissais, mais qui était français, mais qui était à Rome, exilé à Rome pendant une année, et qui a eu cette seule réflexion: Oh, n'oubliez pas que vous avez été historien. Peut-être qu'il avait trouvé que je m'emballais un petit peu trop dans cette histoire. Là, mais moi, en fait, sur le fond, j'en sais rien si c'était les reliques de Saint Matthias ou pas qu'il y avait à Padoue, mais sur le fond, j'étais absolument fasciné par le fait que des gens puissent penser que c'était le cas. Ouais, c'est un peu cette affaire. Ça, c'était un premier exemple que je pouvais vous donner. Un deuxième exemple, peut-être qu'il vous paraîtra un peu tordu, mais quand même. Alors, lorsqu'on habite à Vienne, nous avons dans le palais impérial de Vienne, dans la Hofburg, ce qui s'appelle la Schatzkammer, ce qui est le trésor impérial. Et le trésor impérial des Habsbourg, comme n'importe quel trésor royal, ducal, qui se respecte, comporte deux parties. Où il y a une partie qui s'appelle le trésor sacré et une partie qui s'appelle le trésor profane. Donc dans le trésor profane, vous avez des couronnes, vous avez des choses comme ça. Et dans le trésor sacré, qu'est-ce que vous avez? Eh bien, des objets de culte, mais aussi tout un tas de reliques. Et des reliquaires avec des reliques à l'intérieur. Et alors moi, j'ai visité cela avec, ça ne s'invente pas, mais un Ukrainien qui était en fait orthodoxe russe. Et lui était extrêmement choqué que l'État autrichien présente dans un musée toutes ces reliques-là. Alors, on avait un bout de dent présenté comme étant un morceau de la dent de Saint-Jean-Baptiste, on avait d'autres choses. Et en fait, à la grande stupeur de tous les gens qui étaient autour dans la Schatzkammer avec nous, devant chaque relique, il faisait un signe de croix et une génuflexion. Donc ça fait un cirque pas possible parce que les reliques sont nombreuses. C'est-à-dire que le trésor impérial à Vienne, ça se chiffre par plusieurs centaines. Donc je vous laisse voir le nombre de gestes qu'il y a eu. Non, enfin, à la fin, j'en pouvais plus. Mais c'est pas grave. Mais ceci dit, ça fait réfléchir. Parce que ce que disait cet orthodoxe, c'était des morts. Enfin bon, de deux choses une. Soit c'est des fausses reliques, auquel cas on s'en fiche et on n'a pas aucun intérêt à les montrer. Soit c'est des vraies reliques, et comme chrétien, ben, je n'ai pas le droit de me contenter d'en avoir un musée. Peut-être que c'est une question d'orthodoxe. Je dis ça parce que la question qui est sous-jacente derrière, c'est la question de l'image. Au sens où j'ai visité avec le même russe, ukrainien orthodoxe russe, une exposition de peinture sur Fra Angelico à Paris. Oui, il m'a fait la même chose, c'est-à-dire devant chaque peinture représentant la Vierge Marie, le Christ, les saints ou je ne sais pas quoi, une génuflexion, un signe de croix. À la grande stupeur de tous les Parisiens qui étaient en train de visiter le musée, qui ne comprenaient pas que l'on puisse vénérer une image. C'est quelque chose, en fait, qui est du même ordre. Voilà. Donc je vous dis ça parce que, quelque part, vis-à-vis d'un objet qui nous paraît étranger, je pense que première attitude à avoir, c'est quand même un minimum de bienveillance. Sinon, on est à peu près sûr de rater son affaire. Je pense que c'est vrai de n'importe quel, c'est vrai de n'importe quel objet, hein, je veux dire. Si je commence un bouquin en me disant qu'est-ce que ça va être cette somme d'âneries que je vais lire, en fait, je suis sûr que je vais trouver une somme d'âneries. Alors que si je commence à me dire, bon, qu'est-ce qu'il va me dire? Peut-être qu'il m'apprendra quelque chose. Donc ça, c'est vrai également de la question des reliques, même si peut-être qu'une bonne partie du christianisme contemporain s'y intéresse pas beaucoup. Avec en plus une difficulté supplémentaire. Je ne sais pas si on a le droit, bon, peut-être, j'en sais rien, de séparer les choses entre ce qui serait une religiosité populaire et ce qui serait une religiosité non populaire. En disant, eh ben, après tout, les reliques, c'est pour les gens simples qui ont besoin de ça, mais moi, je suis trop intelligent pour avoir besoin de m'en servir, donc ce n'est pas pour moi. Je ne suis pas sûr que ce soit l'affaire la plus légitime, parce que peut-être que ça ne correspond pas à la manière dont on a usé des reliques, y compris dans les temps anciens. C'est un peu pour ça qu'on commence, de toute façon, je n'ai pas le choix, j'ai que ça sous la main, par des textes d'auteurs des Pères de l'Église, qui sont rarement des gens qu'on pourrait qualifier de peu intelligents, en fait. Voilà. Donc, la question, elle se pose là. Donc, est-ce que, moi, c'est un peu ça que je voudrais faire avec vous pendant ces 5 semaines, c'est est-ce que je peux arriver à appréhender le phénomène du culte des reliques de manière irrationnelle, qui ne soit pas complètement, j'allais dire, humiliante pour celui qui ne serait pas suffisamment intelligent pour comprendre qu'il n'en a pas besoin. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, parce que c'est quand même ça ce qu'il y a dans le fond. C'est un peu comme celui qui dirait, après tout, oh, toi, tu es quelqu'un de simple, tu peux bien prier ton chapelet, moi, je suis intelligent, donc je peux faire une lectio divina sur le texte biblique. Ben, si c'est comme cela, je m'interroge sur l'union des vies spirituelles, vous voyez. Avec en plus cette question sous-jacente, que si j'affirme qu'il y a bien un sens commun des fidèles, qu'est-ce que je fais du culte des reliques qui a existé et qui existe encore toujours? Donc, est-ce que je dis, bon, bah, en fait, non, c'est vraiment que c'est un truc pour gens pauvres qui n'ont pas besoin de plus, mais de quel droit est-ce que je mépriserai cela ou pas? Vous voyez, je mets ça à l'affaire. Donc, ça, c'est la première perspective. La deuxième perspective qui est plus difficile, c'est est-ce que je peux rendre compte de cette dévotion de manière satisfaisante pour la foi chrétienne? Alors, ce n'est pas mon sujet, mais vous voyez, quelque part, ça pourrait être ça. Après tout, est-ce que je pourrais rendre compte de manière satisfaisante, enfin, de l'intelligence, de la foi, la prière du chapelet ou les litanies des saints? Et je suis assez convaincu que c'est faisable, en fait. Parce que sinon, ça veut dire que ces prières-là, quelque part, ne sont pas légitimes. Et donc, on ne doit pas s'en servir. Ben, c'est pareil pour le culte des reliques. Vous voyez, ça, c'est la deuxième chose. Troisième point méthodologique difficile, là aussi, c'est qu'il n'en reste pas moins que dans le culte des reliques, je me retrouve avec des éléments un petit peu qui doivent pouvoir être tangibles au niveau théologique, et puis en même temps, je me retrouve quand même avec des histoires objectivement de véritables trafics, d'inventions, etc. Alors, comment j'arrive à en rendre compte? Est-ce que j'en rends compte, allez, disons, avec les lunettes du XXe siècle, disons, si je suis un peu marxiste, d'une religion qui serait l'opium du peuple, ou bien, si vous préférez, cet auteur du Parisien du XVIIIe siècle, qui est absolument délicieux, qui s'appelle Nicolas Rétif de la Bretonne, et qui explique au XVIIIe siècle que de toute façon, tout ça sont de vastes simagrées qui sont uniquement là pour assurer le pouvoir de l'Église sur le peuple, peut-être, peut-être. Mais si c'est le cas, peut-être qu'il faudrait en tirer des conséquences aussi. Bien, est-ce que c'est que ça? Voyez, quand on est confronté à un univers qu'on n'arrive pas à comprendre, moi je crois qu'on est obligé de faire un vrai effort mental. Et c'est assez difficile lorsqu'il s'agit en fait d'un univers qu'on croit proche de nous parce qu'il est chrétien. C'est un peu dans ce sens-là que je voudrais poser la question. Au sens où, je ne sais pas, si moi je me rends dans une peuplade n'importe où, n'importe où aux îles Salomon, qui a des usages que je ne comprends pas du tout, moi je vais les juger à partir de ma propre manière d'être. Alors peut-être qu'il faudrait que je fasse un effort de comprendre la culture de cette peuplade pour arriver à comprendre ce qu'elle fait. Et peut-être qu'il y a quelque chose d'équivalent dans la question des reliques. Alors, j'ai pas, rassurez-vous, hein, je n'ai pas l'intention de faire un plaidoyer pour le culte des reliques. Je veux juste dire que peut-être que ça met en jeu des questions théologiques ou spirituelles qui sont plus importantes qu'il y paraît. Bon, en fait, de manière très simple, c'est la foi en la résurrection des morts. Hein, parce que c'est ça, le fond du fond. Et qui n'est pas une question facile. Hein, ça veut dire quoi que je crois en résurrection des morts? Je le proclame tous les dimanches. Mais je veux dire quoi? Et une fois que je dis moi ce que je vais dire quoi, c'est aussi comment est-ce que les chrétiens, depuis qu'il y a des chrétiens, ont exprimé cette foi en la résurrection des morts, l'ont manifesté, avec peut-être des expressions qui seraient peut-être un peu abusives, mais quand même, il faut garder. Vous voyez, c'est un peu ce que je veux dire par là, comme lorsque j'essaye de faire dessiner la Trinité. Souvent, les dessins sont complètement abusifs. Et dans l'histoire de l'art, je ne suis même pas sûr qu'il y ait eu un vrai progrès en la matière. Et ben, est-ce que dans l'expression de la foi en la résurrection des morts, il y a quelque chose qui s'exprime aussi dans le culte des reliques? Voilà, c'est peut-être cette affaire-là. Alors, quand je dis que c'est une affaire mélangée, c'est parce que forcément, on va se retrouver avec l'articulation des problèmes d'une époque avec la foi. Alors, peut-être commencer doucement de cette manière-là, mais vous voyez, c'est facile pour mon sujet, c'est pas comme le Saint-Sépulcre, là, j'ai pas besoin de la Bible. Pour courir, il n'y a aucune mention dans la Bible de culte des reliques. Raison pour laquelle les protestants ont estimé que tout cela n'avait aucune valeur. Donc, ça n'est pas présent dans la Bible, ce n'est pas la peine de chercher, en fait. Et pour une raison très simple, c'est que le monde biblique, en particulier de l'Ancien Testament, est absolument convaincu qu'il n'a pas besoin des ossements pour obtenir la résurrection des morts. Je n'ai pas besoin des ossements, puisque de toute façon, les ossements ils finissent par disparaître. Enfin, ça, c'est simple. En fait, nous, on oublie un peu cela, mais le fait d'avoir gardé un squelette, en soi, c'est exceptionnel. Puisqu'il faut des conditions de conservation pour l'avoir. Et la foi en la résurrection des morts, ce n'est pas Dieu qui joue au mécano avec le reste des ossements. Enfin, peut-être, mais je ne crois pas. Puisque Dieu est capable de faire revivre les ossements qui ont disparu. Et c'est exactement ce que raconte la prophétie d'Ézéchiel dans le chapitre 36, en fait. Donc, du coup, je n'ai pas besoin d'ossements véritables pour avoir une foi en la résurrection des morts. Ça, c'est le fondement biblique. Et pourtant, il y a tout un tas de gens qui, dans l'Église, ont considéré qu'il était légitime de découper les gens en morceaux pour faire vénérer leurs morceaux quelque part. Et puis après, comme nous, on commence à être bêtement rationnel, on finit par dire « c'est quand même étrange, mais si je mets toutes les dents de Saint-Jean-Baptiste que j'ai à disposition, je me retrouve quand même avec un homme qui a objectivement beaucoup de dents. » Mais vous savez, quand je fais cette opération-là, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire, pour la résurrection des morts, j'ai besoin de tous les objets corporels que je vais rassembler. Vous savez, c'est une question. Je commence par la question théologique parce qu'en fait, elle est importante. Mais moi, c'est une question que je me pose. Ah. Mettons qu'un jour, je devienne unijambiste. À la résurrection des morts, est-ce que j'aurai mes deux jambes ou est-ce que j'en aurai une seule? Qu'est-ce qui coûte? Vous voyez ce que je veux dire? C'est une vraie question très concrète, en fait. Et qui met en jeu, en fait, ce que je crois quand je dis je crois en la résurrection des morts. Voilà. Donc, c'est un peu comme cela, le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est le fait que lorsqu'on est chrétien au premier siècle, les enjeux décisifs pour la foi ne sont pas exactement les mêmes que lorsque l'on est chrétien au 21e siècle. Et le problème, c'est qu'au milieu, c'est pareil. Lorsque je suis chrétien au 4e ou 5e siècle, l'enjeu n'est pas le même non plus par rapport au 1er siècle. Ou lorsque je suis chrétien au 10e siècle, les enjeux par rapport à la foi en la résurrection des morts ne sont pas les mêmes que lorsque je vis au 1er ou au 4e siècle. Et désolé, je vais continuer, mais ça c'est juste parce que c'est la vertu de la pédagogie. C'est que lorsque je vis au 16e siècle, les enjeux pour la résurrection des morts ne sont pas les mêmes que lorsque je vis au 1er, au 4e ou au 10e siècle. Et lorsque je vis au 19e siècle, idem, les enjeux ne sont pas les mêmes. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est que nous, mais ça me frappe quand même de voir que, quelle que soit l'échiquier, enfin, j'aime pas tellement mettre les gens dans des cases, dans des catégories sur l'échiquier ecclésial. Mais ça me frappe que 95% des gens que je rencontre aujourd'hui dans l'Église considèrent qu'il y a une espèce de donnée qui serait monolithique, qu'on met en général de Constantin, c'est-à-dire du début du IVe siècle jusqu'aux années 1960. Et ça, c'est absurde de raisonner comme ça, parce que ça n'a jamais existé. Le bonhomme qui vit au XVIe siècle, il a la même foi que le bonhomme qui vit au IVe siècle, mais n'empêche que la manière d'exprimer sa foi est différente. N'empêche que les questions qui se posent sont différentes. Et ce, c'est vrai à chaque génération, parce que bon, ça, c'est juste parce que je ne voulais pas être trop pénible, parce que sinon, vous seriez parti tout de suite. Mais ce que j'ai dit en mettant simplement, en sautant de 4 siècles en 4 siècles, je pourrais le dire tous les 30 ans. Parce que la culture change tous les 30 ans, en fait. Et l'idée d'un monde uniforme de Constantin jusqu'aux années 1950 est une idée complètement absurde. Mais vraiment complètement absurde. Parce que à chaque fois, il y a quelque chose qui bouge. Et donc la vraie difficulté pour la foi, c'est que chaque génération doit se réapproprier le credo, dont pas un mot ne doit bouger et ne bougera jamais, sinon qu'est-ce qu'on risque? Eh bien, on risque que la foi soit plus la même. Parce qu'en fait, il faut quand même qu'on s'assure que la foi soit la même qu'avec les chrétiens du 3e ou du 4e siècle. Dis ça comme ça. Vous savez, donc, je m'exprime parfois, pas seulement, je suppose que je suis, mais parfois je m'exprime comme pasteur. Un jour, j'ai posé cette question-là à un de mes paroissiens qui considérait qu'on devait tout réinventer à zéro. Je lui ai dit, mais enfin, qu'est-ce que vous avez en commun finalement avec le chrétien du 4e siècle? Il m'a répondu, rien. Ben, ça m'embête, parce que normalement, vous avez quelque chose en commun, qui est le Christ, et qui est la foi. Sinon, on n'a pas besoin du Christ, en fait. Le problème, alors, je recommence, c'est que ma foi est commune. Il y a un mot de la foi qui est commun, enfin qui, en tout cas, pour ces 5 semaines, va tenir en une toute petite phrase. Je crois en la résurrection des morts, bien si vous préférez, je crois en la résurrection de la chair, et en la vie du monde à venir. Bon, formule sibylline, difficile. Et dans le même temps, chaque génération doit réinterpréter, comprendre à frais nouveau ce que ça veut dire, or peut-être en s'appuyant sur les générations précédentes et en le faisant. Alors, est-ce que ça va là au niveau théologique? Alors, parce que je vais maintenant rajouter une deuxième difficulté. La difficulté supplémentaire, c'est que, OK, on doit recomprendre à chaque fois à frais nouveau, mais les objets qui sont à notre disposition sont les mêmes depuis le début. Ah. Et pourtant, ils se réinterprètent. Et pourtant, ils se réinterprètent. Bon, l'année dernière, ceux qui étaient là, j'avais essayé, peut-être que vous avez beaucoup embrouillé, mais en fait, quelque part, si je vous embrouille, en fait, je suis plutôt content, en fait. Parce que quand on est embrouillé, ça veut dire qu'on commence à réfléchir. Alors que quand on croit qu'on y voit clair, c'est juste qu'on a perdu quelque chose. Là, donc, en fait, si je vous embrouille, je suis content. Mais l'année dernière, je crois que j'en avais embrouillé certains, qui à la fin, ça savait plus si le Saint c'est plus que c'était le vrai endroit, mais en fait, ce n'était pas mon problème. La vraie question, c'était de savoir pourquoi à chaque génération, j'ai besoin ou non du Saint-Sépulcre. Et l'année dernière, je vous avais montré que pendant 3 siècles, finalement, tout le monde s'en fichait. Et un jour, on en a eu besoin. Mais peut-être que pour les reliques, il y a quelque chose d'équivalent. Alors, c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur d'aborder un objet qui n'est pas présent dans la Bible. C'est une dévotion qui n'est pas présente dans la Bible. Mais ce n'est pas très grave, en fait, parce que le nombre de choses qu'on fait qui ne sont pas dans la Bible. Et si vous voulez faire des choses qui sont uniquement dans la Bible, eh bien, il faudrait un jour qu'on prenne les actes des apôtres au sérieux. Par exemple, qu'on arrête de manger du boudin. Qu'on arrête de manger des biftecs saignants. Parce que ça, c'est rigoureusement interdit par les actes des apôtres. Vous voyez, si on veut avoir une vie chrétienne et qui soit entièrement réglementée par la Bible, je pense qu'il y a un certain nombre de choses que chaque chrétien devrait commencer à faire alors qu'il ne le fait absolument pas. Et je prends là encore des questions alimentaires faciles. Je pourrais prendre des questions de morale sociale infiniment plus difficiles. Par exemple, le fait que les actes des apôtres soient extrêmement clairs sur le fait que le chrétien doit tout mettre en commun. Je suis à peu près convaincu qu'on ne le fait absolument pas, y compris ceux qui clament le plus fort qu'ils sont là pour les pauvres et qu'il faut s'occuper des pauvres. Vous voyez? Donc, en fait, la question, elle n'est pas de savoir si c'est présent dans la Bible ou pas présent dans la Bible. La question, c'est de savoir si ça met en jeu la foi, si ça la nourrit et si la foi peut en rendre compte. Vous voyez? C'est plus comme ça que je mettrais l'affaire. Alors, de manière très claire, si ça nourrit pas la foi. Et si la foi ne peut pas en rendre compte, ben ça veut dire qu'on n'en a pas besoin et qu'il faut s'en débarrasser. Si ça nourrit la foi, enfin, commencez par ça. Si la foi peut en rendre compte, c'est qu'a priori, c'est estimable. Si en plus, ça la nourrit, ça veut dire que peut-être qu'on en a besoin d'une manière ou d'une autre. Mais la question est encore à chaque génération. Alors, c'est un peu pour ça qu'en fait, on a besoin d'un cours d'histoire. Enfin, moi, je fais partie des gens qui pensent qu'en fait, l'histoire de l'Église, c'est vraiment indispensable. Parce que sinon, je fais un bloc monolithique, alors que chaque génération a des questions qui ne sont pas les siennes. Je prends un exemple simple pour vous faire comprendre ce que je suis en train de dire. La question de l'authenticité des reliques, de savoir si elles sont vraies ou fausses, est une question qui se pose à partir du XVIe siècle, y compris dans le monde catholique. Parce que le monde catholique n'est absolument pas crédule. Mais le monde catholique est parfois prudent, en disant que pour affirmer qu'une telle relique est fausse ou vraie, on a peut-être besoin de réfléchir longtemps. Eh bien, je vous signale que dans le catholicisme, il existe une société pour ça, la société des boulandistes. Alors, moi, je suis très content parce que j'en ai rencontré un. Je pensais qu'il n'y avait plus un seul vivant, mais j'en ai rencontré un vivant, donc il existe encore. Là, c'est une société qui a uniquement pour but de vérifier, et pas sans son temps à ça, de vérifier toutes les vies de saints et toutes les reliques. Alors, vous me direz, à quoi ça sert? Eh bien, précisément à cela. Répondre à la question de l'authenticité qui a été inventée au XVIe siècle, alors qu'avant, cette question-là ne se posait pas vraiment. Je ne sais pas si c'est une question dont on a besoin aujourd'hui. Je crois que la question contemporaine, c'est beaucoup plus quelque chose du genre « c'est pas respectueux d'un corps que de le découper en morceaux », peut-être. Ou ça serait « pourquoi j'en ai besoin après tout ?» Si ma foi est spirituelle, je n'ai pas besoin d'objets. Vous voyez ? Donc ma question elle est très différente de la question du XVIe siècle, de celle de l'authenticité. Alors, je préfère ménager mon suspense, mais vous direz après quelle est la question du IIIe siècle ? Parce que la question du IIIe siècle est encore une question très différente. Alors du coup, je termine cette introduction méthodologique de cette manière-là. Ça veut dire que moi, j'arriverai à trouver un intérêt relique en 2022 si, un, je comprends l'intérêt théologique, et si, deux, j'arrive à voir que d'une certaine manière, ça peut nourrir ma foi aujourd'hui. D'une certaine manière. Qui sera peut-être pas la manière du IIIe siècle, qui sera peut-être pas la manière du XIIe siècle. Mais en revanche, ce que je n'ai jamais le droit de faire, c'est le mépris. Ça, c'est vraiment important, en fait. Je n'ai jamais le droit de dire « Oh là là, mes ancêtres dans la foi étaient vraiment ridicules, rendez-vous compte de ce qu'ils faisaient. » Parce que ça, c'est pas respectueux des gens, en fait. Et si moi, je veux qu'on soit respectueux de ma manière de croire, de ma manière d'exprimer ma foi, et si je veux que dans 4 siècles, les gens soient respectueux de ce que moi j'ai cru, de ce que j'ai essayé de faire, il faut que moi j'ai le même respect vis-à-vis de mes ancêtres. Quand bien même, j'ai du mal à rentrer dans ce qu'ils font réellement. Vous voyez, je vous en donne un exemple qui est hors sujet relique, mais c'est pour vous faire comprendre ce que je suis en train de dire. Au XVIe siècle, au XVe siècle, on est convaincu que les divinités païennes, que toutes les figures de la mythologie gréco-romaine, sont des figures qui annoncent le christianisme. Donc il n'est pas du tout choquant pour un peintre des XVe et XVIe siècles de représenter des peintures religieuses avec en même temps ces figures-là païenne. Moi, je pourrais dire, oh là là, qu'est-ce que c'est ridicule, ils ont perdu la foi, et moi j'ai lu ça dans des livres d'histoire de l'art, qui sont juste des gens qui n'ont pas cherché à comprendre ce qui se passait dans la tête de ces peintres des XVe et XVIe siècles. Ils nous disent, ils ont perdu la foi, la preuve, c'est qu'ils représentent Vénus dans leur tableau à côté eh bien, du Christ. Mais vous n'avez juste rien compris. C'est que Vénus annonce la Vierge Marie pour le peintre du XVe et du XVIe siècle. J'ai revu ça encore cet après-midi. Alors, heureusement, cette exposition-là à Paris de Botticelli sur la Fondation Jacques-Marandré, de ce point de vue-là, est remarquable parce qu'ils arrivent à le dire, à faire comprendre cela, que la représentation de la mythologie païenne au XVe et XVIe siècle n'est pas une perte de foi, mais une, si vous voulez, bon, peut-être qu'on peut dire un minimum, un plaquage de foi sur le paganisme mythologique. Mais voyez, si dans 4 siècles, Les chrétiens disent, bah quand même, au XXIe siècle, les chrétiens avaient complètement perdu la foi. La preuve, c'est qu'ils ne croyaient plus à la vertu des reliques. Eh bien, ça voudrait juste dire qu'ils auront manqué de respect à ce qu'est les trois quarts des chrétiens actuels. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment cette question du respect envers les ceux qui m'ont précédé dans la foi. Du respect sur leur manière de croire. Du respect devant les questions qui se sont posées, qui ne sont peut-être pas les miennes, mais qui se sont posées quand même, devant les défis et les manières dont ils ont répondu, parfois peut-être de manière maladroite, mais ce même défi, enfin nous, on a d'autres et on en est extrêmement maladroit. Enfin, je vous donne ça, j'arrive à mon sujet, rassurez-vous, mais voyez, je parle de la résurrection des morts. Comment est-ce que, bon, un chrétien lambda, aujourd'hui, rencontre de la foi en la résurrection des morts? Ben, en fait, en réalité, désolé, mais de manière extrêmement pauvre. Parce que lorsque j'entends dans 95% des obsèques que je célèbre, des choses du genre, ah, mon mari, ma femme, mon père, ma mère, ah ben là, je sais, de toute façon, maintenant, il est au ciel, d'ailleurs, il veille sur nous maintenant. Vous en savez quoi, en fait? Moi, il y a une seule chose que je sais, c'est que là, il est dans un cercueil, et ensuite, soit il va y avoir crémation et il n'y aura plus rien, soit il va y avoir un cercueil que je vais mettre sous terre, et dans quelques temps, il n'y aura plus rien non plus. Moi, c'est ça ce que je sais. Je ne sais rien de plus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ma foi en la résurrection des morts, elle n'est pas du tout dans le fait qu'une espèce d'âme serait en train de survivre au ciel et de veiller sur moi. Mais ce n'est pas ça, en fait, la résurrection des morts. Alors que c'est aujourd'hui ce que croient 90% des gens qui se présentent aux obsèques. Qui est juste une manière de ne pas avouer qu'ils ont terriblement peur de la séparation. Qu'ils ont terriblement peur de la séparation. Et qu'ils ne veulent pas affronter cette séparation. Et qui fait que dans les rites funéraires, on arrive à entendre parfois que certaines personnes veulent avoir le petit flacon de cendre de leur mère dans leur maison. Parce que j'ai tellement peur de la séparation que j'ai besoin d'avoir cet objet-là sensible à côté de moi. Et ça, c'est notre problème aujourd'hui qu'on a avec la mort. À la fois, j'en veux pas, et en même temps, j'en ai tellement peur, et ça, c'est peut-être un des signes les plus clairs de la déchristianisation de la société. Ça peut-être pas mon sujet, mais je vais arriver à là. C'est-à-dire, si moi je veux parler de résurrection des morts à mes contemporains, il faut que je commence par savoir ce que eux ont comme image de ce qui se passe après la mort. Si je suis matérialiste, il n'y a plus rien. Je ne suis pas sûr que nos contemporains soient extrêmement matérialistes. Parce que, voyez-vous, l'idée de dire « mon défunt que j'aimais beaucoup, il est maintenant là-haut et il veille sur moi », ça ne veut pas dire « il n'y a plus rien ». Ça veut dire « il y a quelque chose ». Alors, quand je fais de mauvaise humeur, j'explique à qui mieux veut l'entendre que oui, le veuvage dissout le mariage. Et que du coup, on ne peut pas dire à quelqu'un qu'une fois qu'il est veuf ou veuve, qu'elle va retrouver son mari ou sa femme au ciel. Peut-être. Mais n'empêche que le veuvage dissout le mariage. Il n'y a plus rien. Enfin, du coup, c'est pas. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je reviens maintenant à la question antique. Continuer à avancer tout doucement. Je vais peut-être commencer par là. En fait, je ne vais pas commencer par vous donner une définition de relique, parce que ça sera pour après. Je vais commencer, du coup, par qu'est-ce qu'il y a dans la tête des gens sur ce qui se passe après la mort. Parce qu'en fait, c'est ça l'enjeu fondamental. Avant d'arriver aux reliques, il faut savoir ce que ça veut dire, je crois, en la résurrection des morts, et ce que, peut-être, commencez par là. Voyez-vous, vous m'arrêtez, mais si, parce que je vous parle trop en général, vous m'arrêtez si je dis n'importe quoi ou si vous n'êtes pas d'accord. Mais pour le coup, me semble-t-il, la foi en la résurrection des morts, c'est très exactement la chose qui est biblique. Pas les reliques, mais la foi de la résurrection des morts, je l'ai. Alors, je vous en donne deux lieux bibliques par excellence. Premier lieu biblique par excellence, première, aux Corinthiens, chapitre 15. Alors ça, c'est toujours un truc qui m'étonne. Parce que souvent, d'ailleurs, quand on dit « c'est pas dans la Bible », en général, on veut dire « c'est pas dans l'Évangile ». Et ça, c'est une erreur historique à outrance. Parce que la première aux Corinthiens, c'est 51. Donc, c'est au moins de 30 ans avant l'écriture du premier évangile. Alors, même si je ne suis pas toujours très conventionnel sur la chronologie des rédactions des évangiles, mais, et même si vous prenez l'hypothèse conventionnelle, c'est au moins 20 ans avant l'écriture de l'évangile selon saint Marc. Donc, d'un point de vue historique, les lettres de saint Paul sont infiniment plus fiables que les évangiles. Or, qu'est-ce que dit saint Paul dans la première aux Corinthiens, chapitre 15 ? Oui, les morts ressuscitent. Sinon, la résurrection du Christ ne sert à rien. Alors, je n'ai pas le texte sous les yeux, vous irez chercher vous-même l'argumentation, mais c'est vraiment le centre de la foi. C'est-à-dire que lorsque saint Paul s'adresse aux Corinthiens, il leur dit « Attention, si le Christ ressuscite et que ça n'entraîne pas la résurrection des morts, ça veut dire que notre foi en la résurrection est vaine. » Il le dit dans ces termes-là. Ça veut dire qu'il ne sert à rien de croire en la résurrection. Et ça veut donc dire que la mort et la résurrection du Christ ne servent à rien. Donc, saint Paul, je répète, on est au deuxième écrit du Nouveau Testament. Dit, et ça c'est peut-être un des éléments de la foi qui est le plus sûr, il faut impérativement lier la foi en la résurrection du Christ et la foi en la résurrection des morts. Pourquoi je prends ces précautions-là ? C'est pour vous dire que dans la foi chrétienne, en fait, c'est peut-être là le premier élément décisif. Enfin, je ne sais pas exactement dans quel ordre se font les choses, mais il n'est pas sûr que la question du péché originel soit la question première. En revanche, la question de ce qui se passe après la mort est une question première dans le Nouveau Testament. Alors, moi, je ne suis pas prof du Nouveau Testament, enfin, au sens où je ne suis pas prof, je ne suis pas théologien, mais quelque part, si on voulait être un peu sérieux dans les programmes de théologie, on devrait commencer par ça. On ne devrait pas commencer par l'histoire des natures du Christ. On devrait commencer par le lien entre la mort et la résurrection du Christ et le fait que les morts ressuscitent. Parce que c'est ça, le salut, en fait. Alors, je dis ça parce que voilà, l'évêque de Bernard, qui aussi, je crois, mon évêque, dit que cette année, il faut qu'on se ressaisisse de la question du salut. Mais c'est de ça dont il s'agit, en fait. Je veux dire quoi quand je crois en la résurrection des morts? Est-ce que j'y crois? Et si j'y crois pas, en fait, ça veut dire que j'ai déjà abandonné la première aux Corinthiens de saint Paul. Bon, dans mon vocabulaire à moi, alors je suis peut-être un peu rigide, mais dans mon vocabulaire à moi, ça veut juste dire que j'ai arrêté d'être chrétien. Puisque au niveau originel, j'ai ce binôme extrêmement fort. Donc ça, c'est le premier lieu biblique qui est en saint Paul. Deuxième lieu biblique, en Saint-Luc, Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, moi je suis fasciné par les discours des Actes des Apôtres. Parce que voyez-vous, Saint-Luc, c'est un païen devenu chrétien. C'est le bonhomme qui connaît très bien la culture. Alors, je ne sais pas ce qu'il faut dire, bon, allez, disons grec pour faire court. Et il écrit son évangile selon Saint-Luc, et là, le deuxième volume, les Actes des Apôtres, précisément à l'adresse de la culture païenne. Or, qu'est-ce qu'on trouve dans les Actes des Apôtres? À deux reprises, dans un contexte différent, on trouve l'affirmation de la foi en la résurrection des morts. Foi qui est en même temps une espérance. Les deux étant liés. J'insiste sur les deux. Foi et espérance. C'est pas juste. Alors, peut-être que au niveau théologique, c'est parce qu'on a aussi besoin de l'entendre dans notre époque contemporaine, qui ne comprend pas ce que ça veut dire que l'espérance. Parce que l'espérance, ça veut précisément dire que je ne vois pas. Bibliquement, c'est l'Épître aux Hébreux. Voir ce qu'on espère, c'est plus espérer, plus en espérer. L'espérance, ça suppose précisément que je ne vois pas et que je ne sais pas ce qui se passe. Donc, espérance en la résurrection des morts. Deux lieux bibliques dans les Actes des Apôtres. Le premier, ce sont les interrogatoires de Pierre, tels que Luc les raconte, par les autorités juives de Jérusalem. Deuxième lieu biblique plus intéressant, le discours de Paul à Athènes. Actes des Apôtres, chapitre 15, 16, 17. Alors ça, c'est fascinant, parce que, ok, est-ce que Paul a prononcé réellement ce discours? J'en sais rien, j'y étais pas. Je peux même vous assurer d'une chose, c'est qu'il ne l'a jamais prononcé comme ça. Mais c'est vrai de tous les discours antiques, hein. Vous, quand vous lisez le discours de César, galvanisant ses troupes dans la forêt des Carnutes, quelque part entre Chartres et Orléans, pour vaincre les Gaulois, est-ce que César a vraiment prononcé ce discours? On n'en sait rien, on n'y était pas. En revanche, ce qu'on sait, c'est que c'est ça ce qu'il a voulu dire. Et c'est peut-être le plus important. On sait que si ce n'est pas exactement les mots qu'il a employés, on sait que c'est ça le message qu'il voulait faire passer. Entre parenthèses, moi j'en sais rien si Jésus a jamais dit aimez-vous les uns les autres. En fait, je peux même vous assurer d'une chose, c'est que je suis sûr du contraire. Parce que s'il l'avait dit, Paul le dirait. Et en revanche, lorsque les évangélistes disent aimez-vous, Jésus dit aimez-vous les uns les autres, ils savent parfaitement que c'est ce que Jésus a voulu dire. Or, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que Jésus a voulu dire. Pas ce qu'il a effectivement dit à telle occasion de sa vie. Et bien, c'est exactement la même manière pour les discours de Paul. Ce qui doit nous intéresser dans les discours de Paul, ce n'est pas ce qu'il a effectivement dit à un moment ou à un autre, parce que, bon. Pardonnez-moi si j'ai l'air de partir dans tous les sens, mais c'est parce que, en fait, il y a une logique. Le jour où Paul a endormi le petit enfant parce qu'il parlait trop long, je suis toujours dans les Actes des Apôtres, hein, à Corinthe. Bon, ok, ça veut dire que son discours était juste objectivement soporifique. Et d'ailleurs, Paul, on n'arrête pas de dire qu'il ne sait pas parler. Le discours des Actes des Apôtres à Athènes est un bijou d'art oratoire. Donc, bien évidemment que Paul n'a jamais prononcé ça, mais c'est ce qu'il a voulu dire. Et moi, ce que je cherche, c'est ce qu'il a voulu dire. Alors, je reviens à ce discours des Actes des Apôtres. Comment ça commence? Je sais pas, je le dis de mémoire, mais vous connaissez l'épisode, mais parce que c'est vraiment important pour l'histoire de la culture antique. Comment ça commence? Ça commence de cette manière-là, en disant, ah là là, vraiment Athéniens, c'est extraordinaire chez vous, parce que j'ai circulé dans votre ville et j'ai vu que vous adoriez plein de dieux dans tous les sens, et puis j'ai même découvert un autel aux dieux inconnus. Donc qu'est-ce que dit Paul? Il dit, bah, je suis dans votre culture et je regarde un peu comment vous fonctionnez. Alors, si moi je vis au XXIe siècle, peut-être que. Après, c'est mon problème, mes homélies d'obsèques, ça c'est mon problème et celui des gens que je rencontre, mais quelque part, c'est de ça dont il s'agit. J'ai réalisé que quand je vous ai rencontré, vous m'avez dit que votre défunt était là-haut, veillé sur nous. Ah, enfin, moi je vous dis, aujourd'hui, actuellement, il est dans la boîte qui est devant moi. Et d'ailleurs, puisque vous avez voulu mettre une petite vitre pour qu'on voit le visage, vous voyez bien que c'est lui qui est là, puisque c'est le même visage que celui que vous avez vu au funérarium il y a une heure. C'est la même logique. Comment continue Paul? En disant, ah, c'est extraordinaire, parce que quand même, ce Dieu inconnu, vous avez tout à fait raison, parce qu'en fait, Dieu, on ne le connaît pas. Moi, je continue au XXIe siècle, en disant, ah, mais c'est extraordinaire, parce que ce que vous dites, quand vous dites cela, c'est qu'en fait, vous n'avez pas envie d'être séparé de votre ami. Ben, je comprends, parce que c'est exactement ça. Moi non plus, j'en ai pas envie. Comment continue Paul? Ah, mais oui, mais alors attention. Votre Dieu inconnu, moi, je le connais. Je vais vous dire qui c'est. Et au XXIe siècle, en fait, moi, je vais vous dire de quelle manière vous allez retrouver votre ami. Pas celle que vous croyez, mais de quelle manière. Et comment continue Paul? Il nous raconte l'histoire de Jésus, de bonhomme, etc. Et c'est le point important qui continue. Et il dit, eh bien maintenant, je vais vous dire. Jésus, c'est vraiment celui qui est envoyé par Dieu, et c'est le Dieu véritable. Et pourquoi? Parce qu'il est ressuscité des morts. Exactement ce que je fais aux homélies d'obsèques. Comme les chrétiens actuels sont beaucoup plus polis que les Athéniens de l'époque de Saint Paul, les chrétiens actuels, quand ils m'entendent dire ça, se contentent de ricaner dans leur barbe et ne s'en vont pas. Qu'au fond, les contemporains de Saint Paul, eux, ils ricanent et ils s'en vont. Rappelez-vous, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Quand ils disent, oh, sur cela, on t'en écoutera une autre fois, parce que là, quand même, c'est pas croire, c'est pas crédible ton histoire. Mais on t'écoutera une autre fois, c'est la vaste blague. Voilà le point décisif. Paul annonce la foi en la résurrection des morts et les Athéniens s'en vont en rigolant. Luc poursuit, mais enfin, il y en a quand même quelques-uns qui ont cru et qui ont suivi Jésus sur cette place publique d'Athènes qu'est l'aréopage. Alors, ça veut dire que l'élément du kérigme essentiellement annoncé à l'époque du Nouveau Testament, c'est la foi en la résurrection des morts. Parce qu'après tout, que Dieu vienne, que Dieu se manifeste, mais en fait, c'est normal pour un chrétien ancien. La mythologie païenne n'arrête pas de raconter ça. C'est pas du tout extraordinaire de raconter que Dieu descend, vient voir, vient visiter, on n'a que ça partout. En revanche, de dire que Dieu a ressuscité son fils pour ressusciter les hommes, ça c'est extraordinaire. Et on n'a jamais entendu un discours pareil. Et c'est la raison pour laquelle les Athéniens ont du mal à suivre. Je saute tout de suite, rapidement, pendant 3 minutes, de siècle. Quand disons les premiers des martyrs, la même chose qui est dite. Par exemple, l'évangile de Justin. Ah, Justin, c'est extraordinaire, parce que Justin, c'est le philosophe par excellence, converti au christianisme. Qu'est-ce que dit Saint-Justin ? Nous sommes poursuivis en raison de notre foi en la résurrection des morts. Donc, au premier siècle du christianisme, il y a une évidence, c'est que le point qui fait débat, c'est la résurrection des morts. Et la deuxième évidence, c'est que si le Christ est ressuscité, c'est que ça a une conséquence pour la résurrection des morts. Voyez. Est-ce que sur ce premier point chrétien, on est à peu près d'accord ? Oui ?
Oui, oui.
Je vais continuer. Parce que maintenant, je vais être obligé de faire un deuxième pas. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a dans la tête des païens et des juifs quant à l'avenir après la mort ? Je suis obligé de faire ça, en fait. Parce que pour savoir quelle est la question qui se pose, ou pourquoi la résurrection des morts, ça choque, et ensuite j'arriverai à comprendre pourquoi j'ai besoin de reliques, eh bien, je suis obligé de savoir ce qu'il y a dans la tête de ces gens-là. Rassurez-vous, je vais finir par arriver au relique. Je dis ça, c'est parce qu'en parfois, on a besoin vraiment des fondements, en fait, vous savez. Quand j'étais à Rome, il y avait un cours extraordinaire en théologie qui s'appelait le cours d'eschatologie. Donc, c'était justement le cours de résurrection des morts. Et c'était extraordinaire parce que le père Nitrola qui faisait ce cours-là, bon, il avait 50 heures de cours. Je crois que sur les 50, il a passé 25 heures pour l'introduction. Donc, on avait l'impression qu'on n'allait jamais arriver au bout du compte. Mais en fait, quand on est arrivé à la 30e heure, j'ai compris pourquoi j'avais eu besoin de 25 heures d'introduction. Parce qu'en fait, sinon, après, on perdait le fil. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la tête des Juifs et des païens ? Je vais commencer par les Juifs. Parce qu'en fait, c'est le moins décisif. Et ensuite, on passera aux païens. Donc, pour les Juifs, qu'est-ce qui se passe à la mort ? Premier élément qui se passe, enfin, quand je dis pour les Juifs, vous savez, c'est pour autant qu'on en sache quelque chose. Parce que quand vous regardez les Juifs du Nouveau Testament, on a l'impression qu'il n'y en a pas deux qui croient à la même chose. Premier élément qui est sûr, c'est que à la mort, il y a séparation de l'âme et du corps. L'âme, le nefesh, bon, vous mettez ça, mais bon, mon machin, il ne me permet pas d'écrire en hébreu. Donc, en fait, on va l'écrire en, comme ça. Ça, c'est ce qui est traduit en grec par âme. En fait, en hébreu, c'est le principe de vie. C'est ce qui fait que je suis vivant. À savoir qu'un corps tout seul, ça a besoin d'un principe de vie. Ça, je crois que le juif et tous les juifs sont à peu près d'accord là-dessus. Donc, quand je meurs, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe une première chose. Eh bien, c'est que, de toute façon, le corps disparaît. Et ça, en fait, je veux dire, tout homme pense ça, en fait, parce que c'est tellement l'expérience commune. Le corps disparaît à la mort. Donc, en fait, le problème des anciens, ce n'est pas de savoir quel est le devenir du corps, c'est quel est le devenir de l'âme ou du principe de vie. De toute façon, c'est évident que le corps disparaît. Alors, pour un juif, l'âme va rejoindre un monde qu'on appelle le monde des Réphaïm, c'est-à-dire le monde des ombres. Alors, c'est extraordinaire parce qu'à Jérusalem, vous avez la vallée des ombres. Mais pourquoi ? Mais parce que c'est le cimetière. Donc, le cimetière ancien de Jérusalem, il est dans la vallée des ombres. Puisque, comme c'est le cimetière, ça veut dire que là, vous avez toutes les ombres qui se promènent. Ça, c'est le premier aspect. Ces ombres, qu'est-ce qu'elles font ? Eh bien, c'est très clair dans la Bible. Vous connaissez le psaume par cœur, puisque vous avez suivi les cours du CIF. Donc, vous savez qu'est-ce qui se passe. Eh bien, les ombres, elles ne parlent pas. Les ombres, elles ne sentent pas. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous, moi, je trouve délicieux, parce que c'est encore une question de résurrection des morts. L'opéra de Wagner, le vaisseau fantôme, le Hollande des volants, c'est pareil. Ben, ça commence comme ça. Dans le vaisseau fantôme, vous avez toute une chanson qui est une parodie du psaume où on nous dit « ils ne boivent pas, ils ne parlent pas, ils ne sentent pas, donc ils sont morts ». C'est ça le principe du mort. Ils ne boivent pas, ils ne parlent pas, ils ne respirent pas. Et le psaume continue en disant « le monde des morts, c'est là où on ne peut pas louer le Seigneur ». Parce que pour louer le Seigneur, il faut deux choses. Il faut être capable de parler et capable de manger et de boire. Comme je n'ai pas ça dans le royaume des ombres, les morts ne peuvent pas louer le Seigneur. Je ne fais que citer un psaume. Ne loue pas le Seigneur là-bas. Bon. Ça, c'est la première affirmation du judaïsme. La deuxième affirmation du judaïsme qui est décisive pour le christianisme, c'est que, pour autant, ce n'est pas le dernier mot de Dieu. Parce qu'un jour, il va y avoir la résurrection des morts. Donc les Juifs, sauf quelques-uns d'entre eux, croient en la résurrection des morts. C'est vrai dans l'Ancien Testament, c'est vrai dans ces livres incompréhensibles qu'on ne lit jamais, qui sont les livres non bibliques, qu'on appelle les intertestamentaires, donc l'Apocalypse d'Enoch et ces trucs-là, bon, c'est incompréhensible ces trucs-là, et c'est vrai du Nouveau Testament. Je vous en donne un seul exemple. La résurrection de Lazare. Je ne sais pas si vous vous rappelez un peu de cela. Jean 11. Parce que ça, c'est typique pour savoir qu'est-ce qu'un juif pense de la mort. Qu'est-ce qui se passe ? Marthe se lamente auprès de Jésus. Et qu'est-ce qu'elle lui dit ? Mais je sais que il va. Je sais que tu peux tout. Qu'est-ce que lui répond Jésus ? Moi, je suis la résurrection. Qu'est-ce que répond Marthe ? Je sais que mon frère Lazare ressuscitera au dernier jour. Voilà la foi de Marthe. C'est exactement la foi juive commune. Donc, l'idée du grand rassemblement des justes au temps final, avec résurrection de ces ossements d'Ézéchiel que j'ai cités tout à l'heure en Ézéchiel 36, c'est la foi commune des juifs. Qui est associé, j'en ai également besoin pour les reliques, vous allez voir pourquoi, qui est associé à l'idée d'un jugement. Le jugement, je crois que sa meilleure expression dans le judaïsme, c'est le psaume 1. Qu'est-ce que raconte le psaume 1 ? Le psaume 1, c'est un petit bijou, 6 versets, ça s'apprend très facilement par cœur. Et qu'est-ce qu'il raconte ? Il raconte que les justes seront rassemblés au temps final et qu'en revanche, qu'est-ce qu'il dit ? Il ne dit pas du tout qu'il y aura un châtiment pour les méchants, mais il dit « les méchants ne se lèveront pas ». C'est ça, l'énorme châtiment des méchants, c'est qu'ils ne se lèveront pas. C'est-à-dire qu'ils disparaîtront dans le néant à tout jamais. Je mets ça sur des questions de dogmatique, mais quelque part, peut-être que la vision de l'enfer, c'est cela, d'être dans le néant à tout jamais, alors que le juste, lui, se lève et ressuscite. Donc ça, c'est la foi juive, mais qui maintient la foi en la résurrection des morts. Renvoyé dans un temps très lointain. Donc ce qui choque le juif de l'époque du Nouveau Testament, c'est pas qu'on affirme la résurrection des morts, puisque pour lui c'est normal. Ce qui est le choc, c'est qu'on affirme que maintenant c'est fait. C'est ce qui est choquant. Voyez la différence. Ce qui choque le juif de l'époque du Nouveau Testament, c'est que le chrétien ose affirmer que l'espérance maintenant a des raisons solides d'exister au nom de la mort et de la résurrection de Jésus. Est-ce que sur l'eschatologie juive, on est à peu près d'accord? Vous suivez à peu près ce que je vous raconte? Parce que maintenant, il va falloir aller dans le monde païen. Et alors ça, c'est plus difficile. En cas, c'est peut-être davantage étrange. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on meurt pour un ancien romain ou pour un ancien grec? Eh bien, première chose, la chose avec laquelle tout le monde est d'accord, à la mort, nous avons la séparation de l'âme et du corps. Ben, c'est normal, puisque la différence entre le corps vivant et le cadavre, c'est la question de savoir si je respire ou si je ne respire pas. Et l'âme, c'est le principe de respiration, le principe de vie. Vous voyez, c'est un peu ces choses-là. Dans les temps anciens, bon, aujourd'hui, évidemment, on est dans un monde un peu différent, puisque notre vision de la mort, aujourd'hui, est extrêmement médicale. C'est assez rare, hein, aujourd'hui, finalement, d'avoir un constat clinique de la mort. Puisque comme 95% des gens meurent ou à l'hôpital ou en EHPAD, ils ont tous tout un tas de petits appareils qui disent « Ah, attention, maintenant, il est mort !» Alors que l'examen clinique de la mort consiste simplement à approcher un miroir et de voir s'il reste un souffle de vie ou pas. Mais ça, c'est l'expérience commune jusqu'aux années 1980. Bon. Je fais ces allers-retours pour essayer de vous aider à voir comment la question se pose aujourd'hui. Parce que quand aujourd'hui nous avons une mort qui est essentiellement électronique, si je puis dire, qui est mesurable par des indicateurs électroniques, qui en plus, bon, ça je ne suis pas aumônier d'hôpital, mais le peu que je vais à l'hôpital, c'est extrêmement éprouvant pour moi, puisque 95% des extrêmes onctions que je célèbre sont des gens dont je sais parfaitement que dans l'heure qui va suivre, on va les débrancher dans le sens le plus matériel du terme. Donc aujourd'hui, notre expérience de la mort à l'hôpital français, c'est que je décide quand est-ce que les gens meurent, en réalité. C'est une expérience très différente de celle des anciens, qui est celle de l'observation clinique où je vois est-ce qu'il respire ou est-ce qu'il ne respire pas. Bon. Donc, premier constat pour la mort, pour les anciens, séparation de l'âme et du corps. Alors, ceux qui m'ont subi dans des visites des temples païens à Rome, je suis désolé, mais je radote parce que je sais que je l'ai déjà dit, mais en fait, c'est vraiment fondamental. Alors, quand on dit que ça se sépare, il se passe quoi après? Eh bien, pour le corps, on est toujours d'accord, c'est facile, il disparaît. C'est tout. Il disparaît. Il disparaît, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas s'en soucier, qu'on ne va pas le soigner, qu'on ne va pas lui donner des soins. Mais c'est évident qu'il disparaît. Je dis ça parce que parfois, on entend dans certains milieux que la crémation, l'incinération est un irrespect du corps. Pour les anciens, ce n'est pas vrai. Et ça ne peut pas être vrai parce que l'incinération coûte horriblement cher et prend énormément de temps. Donc, ça, c'est une marque de respect, au contraire, pour les anciens. Parce que c'est ma manière d'assurer la disparition du corps, puisque le corps doit disparaître. Donc, en fait, si je le brûle, je suis sûr qu'il disparaît et je lui permets de disparaître correctement. Alors, qu'est-ce que je fais pour les suppliciés? Eh bien, je les laisse aux bêtes sauvages. Donc, c'est là l'irrespect. d'être dévoré par les renards, les loups, les hyènes, en fait, qui passent par là, quoi. C'est ça l'irrespect, puisque je ne permets pas au corps de disparaître rapidement dans les conditions idéales. Ou bien, autre élément qui revient au même, je le jette à la mer, par exemple dans le Tibre, à Rome. Et dans ce cas-là, je ne permets pas au corps de disparaître comme il faut. Alors ça, il faut vraiment qu'on soit clair là-dessus. Pour un ancien, le corps, ça doit disparaître. Raison pour laquelle une question de Xavier, intéressante. Xavier, tu gardes ta question deux minutes parce que justement, on va arriver après au culte des morts.
Non, pas de problème. Je ne voulais pas interrompre. C'est pour ça que je l'ai posé par écrit.
Voilà, non, mais la question est juste, mais j'arrive tout doucement. Je voudrais juste d'abord savoir, il faut d'abord qu'on ait un petit peu de dogmatique païenne pour savoir qu'est-ce qu'il y a dans l'imaginaire, pour ensuite comprendre les rites funéraires. Parce que les rites funéraires, ils sont ancrés sur ce que l'on pense de ce qui va se passer. Donc le corps, je répète, il est fait pour disparaître, raison pour laquelle l'affirmation d'une résurrection, c'est-à-dire d'une réanimation du corps, c'est complètement absurde. Et je répète, les anciens, que ce soit les auditeurs de l'aréopage à Athènes, que ce soit les persécuteurs des premiers chrétiens, l'ont bien compris en ce sens-là. Ils n'ont pas du tout compris l'affirmation de la résurrection des morts comme une résurrection spirituelle. Ils ont bien compris que ce qui était affirmé, c'était une résurrection corporelle, une résurrection charnelle. Bon, que nous disons dans le symbole, quand nous prenons le symbole qui dit « je crois en la résurrection de la chair ». De la chair. Mais la chair, c'est quoi? C'est le corps qui a un sang qui coule. Donc, ce n'est pas le cadavre. C'est donc le corps animé de vie. Donc, le corps, pour les anciens, je répète, disparaît. Qu'est-ce que devient l'âme? Plus important. Alors, pour les anciens, il est absolument évident que l'âme va avoir un devenir différent selon la vie menée sur Terre. Donc, il y a un jugement. Mais je répète et j'insiste, le jugement ne porte pas sur le corps, mais il porte sur l'âme. Vous sentez la différence par rapport à ce qu'affirme le juif. Le juif, il dit, il y a jugement pour tout le monde. Si je suis bien jugé, mon corps ressuscite. Si je suis mal jugé, eh bien, je ne ressuscite pas. Ah, question sur les zoroastriens. Alors moi, j'avoue, moi, je ne connais rien aux zoroastriens, donc j'en sais rien. En fait. Moi, je n'en sais rien. Il faudrait poser la question aux chrétiens qui ont été confrontés à cela, en fait. Vous voyez, c'est là, le problème des rites funéraires, ils sont tellement variés selon les endroits qu'on est obligé de se poser la question de comment le chrétien réagit pour annoncer sa foi face à cela. Moi, je peux parfaitement comprendre qu'un mort soit dévoré par un animal sans que ce soit une marque d'irrespect. Je vous dis juste que pour les anciens grecs et romains, qui sont les premiers interlocuteurs des premiers chrétiens, cette question-là est une marque d'irrespect que d'être dévoré par un animal. Vous voyez la différence? En fait, il n'y a pas de choses, il n'y a pas de choses véritablement de pensée véritablement unanime. Et pour le coup, moi, quand les religions que je ne connais pas, je ne préfère pas en parler parce qu'en fait, vraiment, j'en sais rien. Alors, si on continue, je reprends sur la question du devenir. Par les de devenir de l'âme. Première question. En fait, vous connaissez un peu la mythologie. La mythologie est assez simple. Lorsque je meurs, il y a un moment où je vais traverser, mon âme, je répète, mon âme, va traverser le fleuve des morts, qu'on appelle le Styx. Peu importe. Et ce fleuve me donner le lieu d'un jugement, je vais me retrouver avec plusieurs solutions. Alors, ça veut dire que la première étape, c'est de franchir le fleuve. Au sens où certains ont beaucoup de mal à franchir le fleuve. Eh bien, c'est à ça que servent les rites funéraires. Ça sert à aider aux âmes des défunts à franchir le fleuve. Je reviendrai dessus. Après le fleuve, qu'est-ce qui se passe? Deux solutions. Première solution, vous êtes mal comporté. Eh bien, vous descendez en enfer. En enfer, attention. Ce n'est pas la même chose. Les enfers. Les enfers, pour les Romains, c'est uniquement le royaume des morts qui arrive. L'enfer, au sens strict du terme, c'est le lieu du châtiment. Alors, vous connaissez les supplices, etc. Ça veut dire là où celui qui se sera mal comporté aura un châtiment permanent de ad vitam aeternam, si je puis dire. C'est cet imaginaire-là qui a donné notre propre imaginaire de l'enfer. Mais faites attention que ce châtiment n'est pas un châtiment. Oh, on va saluer Bernard, merci. Que ce châtiment n'est pas corporel. Il est, si je dois dire, psychique. Voyez, je prends un exemple. Le supplice, par exemple, de celui qui doit monter sa pierre au sommet de la montagne et qu'après, elle finit par redescendre. Supplice de Sisyphe. C'est un supplice psychique. Ce n'est pas un supplice corporel, puisqu'en fait, il n'y a qu'une âme dans le monde des enfers. Il n'y a pas de corps. Ça veut dire que les anciens avaient compris que les pires supplices, en fait, sont d'ordre psychique et pas du tout d'ordre corporel. Tous les tortionnaires, ça, en réalité, le savent bien. Donc ça, c'est si je me suis mal comporté. Et si je me suis bien comporté, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je monte aux Champs-Élysées. Mais les Champs-Élysées, quand je dis je monte, en fait, c'est une erreur, je ne monte pas aux Champs-Élysées, je descends aux Champs-Élysées. Tout ça, c'est sous nos pieds. Donc, sous nos pieds, j'ai l'enfer pour les gens qui se sont mal comportés et j'ai les Champs-Élysées pour les gens qui se sont bien comportés. Les Champs-Élysées, qui est un peu le lieu où tout se passe bien, la félicité, enfin, je ne sais pas comment c'est, mais enfin, voilà, d'accord? Où la vision qui est donnée par les poètes latins, c'est l'endroit où je suis nourri, logé et blanchi. Une vision un peu étonnante des Champs-Élysées, mais ça veut dire que je n'ai pas besoin de faire la cuisine, je ne me préoccupe pas de ma nourriture, je n'ai pas besoin de faire ma lessive, puisque je suis blanchi, et en même temps, j'ai mon logement, tout va bien. Espèce de maison idéale, quoi, s'il vous plaît. Mais je répète, psychique, absolument pas corporel. Bon. Alors, à quoi servent les rites funéraires dans ce système-là? Les rites funéraires, ils sont là pour s'assurer que les morts ont bien rejoint leur endroit définitif. Je ne m'explique pas. Si je n'ai pas de rite funéraire, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les défunts ne vont pas traverser le fleuve, le Styx. Ah, et qu'est-ce qui se passe s'ils ne traversent pas le Styx qui les amène aux enfers? Eh bien, ça veut dire qu'ils vont errer sur Terre. Donc, vous avez des espèces d'ombres de défunts qui errent sur Terre. Et est-ce que c'est une bonne nouvelle? Ben non, c'est toujours une mauvaise nouvelle, pour deux raisons. C'est une mauvaise nouvelle pour le défunt, puisqu'il n'a pas de repos, donc il n'atteint pas sa demeure définitive. Et c'est une mauvaise nouvelle pour le vivant, parce qu'en fait, s'il y a des ombres qui passent autour de nous, en fait, elles nous embêtent. Et du coup, lorsqu'il se passe quelque chose de mauvais, peut-être bien qu'il y a une ombre à qui on n'a pas rendu la piété funéraire. Et du coup, il faut rendre cette piété funéraire pour elle. Voilà à quoi servent les rites funéraires dans la Rome et la Grèce païenne. Alors, quels sont ces rites funéraires? Eh bien, c'est essentiellement les repas dans les catacombes. Voyez-vous, les catacombes, c'est des tombeaux, mais en fait, ce n'est pas vraiment des tombeaux. C'est les catacombes, vous, qu'est-ce que vous mettez dedans, en fait? Vous mettez des urnes funéraires, puisque le régime normal, c'est celui de l'incinération. Donc, vous mettez les urnes funéraires et vos urnes, elles se retrouvent. Les n'ont pas beaucoup de place. Donc, quand vous avez un grand tombeau avec l'impression d'avoir quelque chose d'un sépulcre absolument magnifique, comme dans, par exemple, au bord de la Via Appia, à quoi ça sert? Ça sert à réunir votre famille. Ça, c'est le premier. Importante, d'avoir un espace pour pouvoir manger, puisque le cimetière, c'est le lieu où vous pouvez rendre vos devoirs envers les morts de votre famille. Et comment est-ce qu'on fait pour rendre les devoirs envers les morts? Eh bien, bon, c'est des trucs habituels. Vous faites des libations, ça veut dire vous jetez, c'est des rites. Vous faites des offrandes de miel, des offrandes de vin, des choses comme ça. Et ensuite, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez un repas ensemble. C'est ça, les rites funéraires habituels. Donc, quand vous avez beaucoup d'espace, c'est juste que vous avez besoin de beaucoup d'espace pour vous réunir. Alors, forcément, ce que je vous raconte veut dire que plus je suis pieux, plus je vais accomplir mes rites funéraires. Plus ma famille est importante et plus je suis riche, plus je vais accomplir les rites funéraires. La traduction dans le monde chrétien actuel, en tout cas, peut-être pas toujours, mais les gens très pieux vous demandent en permanence des célébrations de messe pour leurs défunts. Dame à la paroisse, je crois qu'on prie pour ses grands-parents une fois tous les 15 jours. Lesquels grands-parents sont décédés il y a 30 ans. Ça, c'est de la piété. On a aussi l'inverse, dans l'autre cas. Une famille un peu importante, il y en a quelques-unes à Suresnes, où on se retrouve avec des messes anniversaires qui n'en finissent plus. Ah oui, parce que quand même, c'était quelqu'un d'important qui comptait. Ah oui. Chez les anciens, ça fonctionne comme ça. Et puis, il y a une deuxième chose qui se passe avec les catacombes, c'est que forcément, la hauteur de votre sépulcre est à l'image. Ah oui, Didier nous signale ça. Ben oui, mais sur, de fait, les repas au cimetière, ils ont existé même en Occident jusqu'à la Révolution, en fait. Parce que dans un village normal, le seul endroit où on peut se réunir, c'est le cimetière. Il n'y a pas d'autre, il n'y a pas de salle communale. Dans un village, la répartition des, enfin, pas la répartition des terres, mais la décision de quelles terres vont être mises en jachère, ça se fait au cimetière. Jusqu'à la Révolution française, le cimetière est le lieu normal de la réunion des gens, en fait. Parce qu'il y a de l'espace. En fait. Alors, là, je reprends. Si ça vous appartient à une famille importante, pas, je ne sais pas, par exemple, dans la Rome antique, les Scipions, famille très importante, eh bien, je vais me bâtir un sépulcre à l'image de mon honneur familial. Enfin, je crois que dans les cimetières chrétiens, on a quelque chose d'un peu, ou non chrétiens, on a quelque chose un peu équivalent. Oui, tout à fait. Tout à fait, on a un repas, mais alors, en général, on ne le fait pas au cimetière, mais de fait, il y a souvent un repas qui réunit, mais c'est tout à fait vrai. Et ça, je crois que c'est une raison anthropologique fondamentale. Que quand j'ai fait un rite de passage, j'ai besoin d'un repas pour rentrer dans la normalité. Ça, ça a été observé, je vous signale ça, je ne sais pas si c'est traduit en français, sinon ça existe dans des langues tout à fait acceptables, c'est-à-dire l'allemand et le hollandais, mais Arnold van Gennep, qui est l'auteur de cela, a observé ça dans tous les rites. Que tous les rites de passage, quels qu'ils soient, se terminent par un repas. Donc les obsèques, c'est des rites de passage, puisque c'est le moment où je fais passer le mort dans sa demeure définitive, avec en jeu après des représentations, etc. Alors, si ma famille est importante, je vais bâtir un sépulcre un peu important qui montre que ma famille est importante. On voit ça quand on est… Vous savez, quand vous visitez les vieux cimetières en province, c'est intéressant. Bon, même, je prends le cas de Suresnes. Le vieux cimetière de Suresnes, le tombeau le plus important de très très loin, c'est le tombeau du maire Henri Sellier. Parce que Henri Sellier, c'était le bonhomme qui a marqué la commune entre 1919 et 1940. Il a énormément marqué la ville, et donc oui, il a un sépulcre qui est absolument démentiel. Eh bien, chez les anciens, il y a quelque chose d'équivalent. Je passe par ce cas-là parce qu'il y a un cas particulier chez les anciens. Et ça, c'est ce qui va me permettre enfin d'arriver aux reliques des saints. si je suis quelqu'un d'exceptionnel, mais alors vraiment exceptionnel, je veux dire pas juste le bonhomme qui va aux Champs-Élysées, mais le bonhomme qui a une vie exceptionnellement remarquable, qu'est-ce qui m'arrive? Eh bien, pour qu'il soit grec ou romain, je deviens un héros. Mais pas dans le sens faible du terme tel qu'on le connaît aujourd'hui. On nous dit « Ah, il s'est comporté en héros parce qu'il s'est jeté à l'eau pour aller sauver quelqu'un qui était en train de se noyer. » Je ne suis pas en train de diminuer la valeur de l'acte, mais je suis en train de faire remarquer que pour un ancien, ça c'était parfaitement normal. Et qu'aujourd'hui, on a peut-être une notion de l'héroïsme qui est juste le signe de ce que nous n'avons pas beaucoup d'attention envers notre prochain. Un héros, dans la définition ancienne, c'est ce qu'on appelle un demi-dieu. Ou presque un dieu. Alors, vous voyez que je commence enfin à arriver au sujet de la canonisation. Ou en tout cas, commence à arriver à quelque chose de cet ordre-là. Qu'est-ce qui arrive au héros? Eh bien, le héros, lui, il ne descend pas. Alors, je répète, son corps disparaît comme tout le monde. Ça, je sais pas. Mais le héros, lui, il ne descend pas. Ça veut dire qu'il monte. Il ne va pas aux enfers, mais il monte directement au ciel. Le ciel, c'est quoi? C'est la demeure, la maison des dieux et des demi-dieux. Alors, je vous donne un petit exemple de héros. Le héros, c'est celui qui... C'est par exemple César. César, c'est un bon exemple de héros. Parce que lorsqu'il meurt, on nous raconte que son corps a disparu, mais ça c'est normal, mais surtout que personne ne sait ce qu'est devenu son âme. Et on nous dit, ah, et bien alors du coup, il est monté. Et c'est comme ça que César se retrouve être un demi-dieu. Héros. Ce qui est vrai de César est vrai de bien d'autres. Romulus, etc. Alors, les Allemands disent, eh bien ça, c'est le mort qui est déifié. Déifié, vous voyez, qui est comme un dieu. Alors, c'est une situation et quelque chose. Qui est exceptionnel. Ce n'est pas réservé à tout le monde. Le lot commun des gens, c'est de descendre. Et il y en a quelques-uns qui exceptionnellement montent. Est-ce que sur mes questions d'eschatologie des païens, on est à peu près d'accord? C'est à peu près clair? Tout cela étant dit sous contrôle d'Aude qui connaît ces choses-là mieux que moi. Mais là. Voilà. Alors, on va enfin pouvoir arriver aux questions des reliques. Alors, peut-être pour changer de genre, je sais que je n'y arriverai pas aujourd'hui de toute façon, mais je ferai la synthèse la prochaine fois. Puisque je vous ai dit qu'on n'avait pas d'attestation de reliques dans la Bible, qu'on avait une attestation de la foi en la résurrection des morts, eh bien moi je voudrais vous faire lire un peu précisément le premier texte qui parle de reliques. D'une certaine manière. En tout cas, c'est en fait le texte que je vous ai envoyé. Le martyr de Saint Polycarpe. Alors, juste peut-être, on ne soit pas d'accord, parce que les textes, il faut quand même les lire correctement. Parce qu'à partir de là, ça veut dire que moi, je commence à mettre en jeu ce qu'on appelle la tradition de l'Église. Donc, quand je mets en jeu la tradition de l'Église, ça va toujours être la même histoire. Je vous répète, parce que, juste pour qu'on soit bien d'accord, ça met en jeu ce que je crois, la manière dont je l'exprime, et ce que je veux dire à ceux qui ne croient pas. C'est toujours les trois choses ensemble. ce que je crois, la manière dont je l'exprime et ce que je veux dire à ceux qui ne croient pas. Alors, Polycarpe. Ça, c'est un document en or, hein, Polycarpe. Parce que Polycarpe est évêque de Smyrne. Smyrne, en Asie mineure, c'est-à-dire en Turquie actuelle. On connaît, en fait, par des lettres, qui est connu également par un autre, son contemporain à peu près, Saint Ignace, d'Antioche. Et on sait que Polycarpe, pour le christianisme, est très important, parce que c'est lui qui nous dit, qui est très important en tout cas pour la littérature joannique. Parce que c'est lui qui raconte qu'il a vu un disciple qui se réclamait de Saint Jean. Donc c'est lui qui nous fait passer, en fait, de l'écriture de l'évangile selon Saint Jean, qui est parfois quand même un peu mystérieux, à quelque chose d'un peu concret, en disant, mais en fait, moi, j'ai vu un bonhomme qui était témoin de cette affaire. Et ça, c'est Polycarpe qui le raconte. Alors, Polycarpe est martyr à peu près en 156 ou 157. Donc, vous voyez, on est à peine un siècle après le martyre de Pierre et de Paul. On est à l'époque des premières persécutions, mais pas tout à fait la première. Et il y a un moment intéressant, parce que, bon, ce n'est pas mon sujet, mais il faut quand même obligé de le dire. Les martyrs dans les premiers siècles sont peu nombreux. Il n'y en a pas beaucoup, en fait. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on en parle autant. Il y en a quelques-uns, mais avant la persécution de Dèce, qui est la plus forte, et encore, les martyrs concernent surtout les gens officiels. C'est pour ça qu'il y a autant d'évêques ou d'assimilés comme martyrs. Ce n'est pas pour diminuer la valeur du martyr. Hein. C'est juste pour qu'on ait un peu conscience que la persécution, ça ne veut pas forcément dire que tout le monde meurt. Ou au contraire, ou du moins, ça veut dire que lorsque la persécution implique que tout le monde meurt, comme c'est le cas en Indochine, au XIXe siècle, eh ben ça veut dire que là, la persécution est atroce. C'est quand même relativement rare. Donc, martyr en 156 ou 157. Et c'est là où ça devient intéressant. C'est que juste après son martyr, les chrétiens racontent son martyr. Alors, je vous dis que c'est un document exceptionnel, parce que c'est assez rare qu'on ait quelque chose de ce genre-là. Habituellement, on a des récits un peu tardifs. Quand je dis un peu tardif, c'est-à-dire il y a 30 ans, 50 ans, ça commence à faire long. C'est assez rare qu'on ait une lettre écrite quasiment le lendemain. Alors vous me direz comment on le sait. On le sait à la fois par des arguments internes, par le fait que la fin, bon, je vous ai mis que des extraits parce qu'elle est un peu longue, mais que la fin de la lettre dit très clairement le processus de transmission. Et qu'on est capable de corroborer. Donc, c'est ce qui fait que la lettre, le récit du martyr de Saint Polycarpe est un récit authentique. Quand je dis authentique, ça veut dire que vous ne pouvez pas dire « Oh là là, c'est exagéré ». En revanche, faites attention. La prière de Saint Polycarpe qu'on va lire, est-ce que c'est exactement les mots de Saint Polycarpe, hein? Ah ben, c'est comme tout à l'heure. Je n'en sais rien, j'y étais pas. Mais ce que je sais, c'est que c'est ce qu'il a voulu dire. Ou c'est ce qu'on a envie de retenir de ce qu'il a dit. Vous voyez le schéma. Alors, je voudrais qu'on commence pour comprendre la logique, parce qu'en fait, je ne cache pas qu'il n'y a que la dernière phrase qui m'intéresse réellement. Mais en fait, pour comprendre la dernière phrase, je voudrais qu'on lise la totalité du récit, pour comprendre en fait ce qui se passe. Je vais peut-être commencer comme cela. On ne le crucifia pas. Ah, on ne le crucifia pas. Ça veut dire quoi, ça? Ah, ben, ça veut dire on ne va pas faire comme pour Jésus. Donc ça, c'est pour vous dire, attention. Ce que je vais vous dire, c'est qu'on n'a pas fait comme Jésus, mais en fait, ça va être comme pour Jésus. Ça, c'est le premier point. On ne le crucifia pas. Contrairement, bah, par exemple, à Pierre ou l'apôtre Saint-André. Mais on l'attacha. Il mit les mains derrière son dos. Intéressant les références. Attaché comme un bélier, distingué pour l'offrande au sein d'un grand troupeau, holocauste apprêté pour agréer à Dieu. C'est quoi la référence biblique sous-jacente? Si.
Moi, ça me fait penser à Isaac.
Et c'est exactement Isaac, c'est tout à fait cela. C'est exactement Isaac. Or, Isaac, pour les premiers chrétiens, c'est la figure de qui? Du Christ.
Du Christ.
Voyez, c'est ça la logique. Donc, attaché comme un bélier distingué pour l'offrande au sein d'un grand troupeau, holocauste apprêté pour agréer à Dieu. Il leva les yeux vers le ciel en disant « Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père de ton enfant bien-aimé et béni Jésus-Christ, par lequel nous avons reçu la connaissance de toi, Dieu des anges et des puissances, de toute la création, de toute la race des justes qui vivent devant ta face, je te bénis pour m'avoir jugé digne en ce jour et à cette heure de prendre part au nombre des martyrs dans le calice de ton esprit, de ton Christ, pardon, en vue de la résurrection à la vie éternelle de l'âme et du corps, dans l'incorruptibilité du Saint-Esprit. » Alors, ok, ça paraît peut-être un peu difficile, mais on va prendre ça. « Prendre part au nombre des martyrs. » Martyrs, dont vous savez que ça veut dire « témoin », dans le calice de ton Christ. Alors ça, la référence, elle est, je vous la donne, mais qu'est-ce qu'on a derrière? « Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ?» Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette histoire-là. Des apôtres, Jacques et Jean, allant dire à Jésus, « Ah, on aimerait bien avoir la meilleure place. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ?»« Ah oui, oui, on peut. Oui, vous allez la boire. » Ah, de prendre part à ton calice, c'est-à-dire à la coupe que tu vas boire. Et la coupe, quand est-ce qu'on la retrouve dans le Nouveau Testament ?« Père, éloigne de moi cette coupe. » Ah, Gethsémani, non pas ta volonté, non pas ma volonté, mais ta volonté. Je continue. En vue de la résurrection à la vie éternelle de l'âme et du corps. Alors ça, c'est le point important. Je suis témoin et l'action que je suis en train de faire en me laissant voir le martyr, qu'est-ce qu'il va être? C'est pour la résurrection de la vie éternelle de l'âme et du corps. Ça veut dire, moi, maintenant, j'espère la résurrection de la vie et, à la vie éternelle et de l'âme et du corps. Et le point important, vous voyez, c'est et du corps. Par rapport aux héros antiques. Parce que, quelque part, je vous mets ça tout de suite pour qu'on soit bien clair, la littérature antique est truffée de récits de mort édifiante. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on sait qu'on a un héros, c'est quand on a une mort édifiante. Tout d'un coup, là, le récit du martyr, c'est le récit d'une mort édifiante. Mais mort édifiante en vous montrant ce que c'est qu'une mort édifiante pour un chrétien. Distincte de la mort édifiante du héros païen. Je continue. Puissé-je être reçu aujourd'hui parmi eux devant ta face en un sacrifice gras? Ah, le veau d'or, le veau gras du fils prodigue. Acceptable comme toi, Dieu, sans mensonge et de vérité. Tu l'as préparé et manifesté d'avance. Et comme tu l'as accompli. Psaume 50, en arrière-plan. À cause de cela, pour toute chose, je te loue, je te bénis, je te glorifie par l'intermédiaire du grand prêtre éternel et céleste Jésus-Christ, ton enfant bien-aimé. Par lui, gloire à toi avec lui et l'Esprit Saint, maintenant et dans les siècles à venir. Amen. J'ai oublié de le dire, mais tout à l'heure, dans l'incorruptibilité de l'Esprit, ça, c'est le corps spirituel de Saint Paul. Saint Polycarpe dit très clairement, attention, je sais parfaitement que la résurrection n'est pas un corps comme le nôtre à l'heure actuelle. C'est le corps spirituel. Qu'est-ce que ça voudra dire? On verra bien. Je continue. À peine eut-il lancé cet amen et terminé sa prière que les hommes du feu allumèrent le bûcher. Donc, martyr, de quelle manière? Ah ben, c'est facile. Martyr comme brûlé. Une flamme immense jaillit et nous vîmes un miracle, nous à qui il fut donné de le voir, car précisément nous avons été épargnés pour rapporter aux autres ces événements. Le feu, ayant pris la forme d'une voûte comme la voile d'un vaisseau qui se gonfle sous le vent, dressa un rempart circulaire tout autour du corps du martyr. Je continue. Et au milieu, il était non pas comme une chair qui brûle, mais comme un pain qui cuit, ou comme de l'or ou de l'argent porté au feu dans un fourneau. Et nous perçûmes une odeur délicieuse, telle une bouffée d'encens ou de quelque autre aromate précieux. Alors, ça vous paraît peut-être incroyable comme histoire, un tissu de fantasmagorie, mais ce qui est important, c'est le sens symbolique. Une voûte comme la voile d'un vaisseau. Pour la patristique, la voile d'un vaisseau, c'est l'Église. On ne peut pas chercher plus loin. Plus important. Il était au milieu, non pas comme une chair qui brûle. Vous opposez ça à quoi? Eh bien, au rite d'incinération. Parce que le rite d'incinération, c'est très exactement la chair en train de brûler. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, lui, ce n'est pas une chair en train de brûler. C'est beaucoup mieux. C'est un pain qui cuit. Ah, un pain qui cuit, une espèce de brioche. Tout d'un coup, le martyr de Saint Polycarpe. Mais qu'est-ce qu'il y a comme enjeu derrière? Eh bien, l'Eucharistie. Parce que l'Eucharistie, c'est une histoire de pain. Ceci est mon corps. Ceci est mon corps. Livré pour vous. C'est exactement ce que fait Saint Polycarpe dans son martyre. Mon corps livré pour vous devient cette espèce de pain en train de, si je puis dire, de brûler, de cuire sous la voûte céleste, sous la voûte qu'est l'Église. Alors, ça, c'est un point extrêmement important qui a énormément marqué la liturgie des funérailles, qui est d'associer l'Eucharistie à la mort. Que la mort édifiante, c'est la mort associée à l'Eucharistie. Alors qu'on a au bout de la chaîne aujourd'hui, en fait, c'est moi je l'ai fait 3 fois jusqu'à présent depuis que je suis prêtre. Je regrette de ne pas le faire plus, parce que c'est quelque chose de très émouvant que de donner à quelqu'un sa dernière communion. Quelque chose comme ça. Mais parce que, pourquoi je dis ça? Parce qu'au bout du compte, c'est que le corps se fasse lui-même cette Eucharistie. Je ne suis pas sûr que beaucoup de prêtres et beaucoup de fidèles ont conscience lorsqu'ils participent à la messe du dimanche, ou la messe tout court, qu'il y a ça en jeu en fait, hein. Que le corps devienne un pain qui cuise et non pas une chair en train de brûler. Donc, comme de l'or ou de l'argent porté au feu, ça c'est encore des allusions du Nouveau Testament. Troisième point important, et nous perçûmes une odeur délicieuse. Une odeur délicieuse. Je ne sais pas si vous, quelle expérience vous avez de la... Je suis désolé, mais ce n'est pas très ragoûtant, c'est presque l'heure du dîner, mais tant pis. Mais quelle expérience vous avez de l'odeur du corps mort? Et je ne sais pas quelle expérience, parce qu'aujourd'hui, c'est une expérience qu'on n'a plus, en fait. Très, très peu. Moi, je l'ai eue en Italie, la première fois de ma vie, à Rome. Et je n'ai jamais eu l'autre expérience, celle du corps mort que l'on brûle. Parce qu'en fait, le corps mort, ça sent mauvais, et le corps mort que l'on brûle, ça sent doublement mauvais. Or là, qu'est-ce qu'on nous dit? Une odeur délicieuse. Donc, c'est nous dire, attention, la mort de Saint Polycarpe, ce n'est pas du tout la mort d'un païen. Ce n'est pas du tout la mort d'un héros. C'est complètement différent. Alors, la référence biblique Oui, tout à fait. Mais d'ailleurs, c'est encore une appellation actuelle. Le rituel parle toujours de viatique. Quand je donne le viatique, je donne... Enfin, ça existe toujours. Le rituel existe toujours. Là, je regrette juste qu'on ne le fasse pas, mais le fait qu'on ne le fasse plus est peut-être pour une bonne part la marque d'une faiblesse de la foi en la résurrection des morts. C'est-à-dire que pour beaucoup de chrétiens, en fait, la mort est juste la fin de tout. Alors que si j'ai foi, enfin, moi je vous dis ça parce que c'est quelque chose qui m'a un peu marqué, mais quelqu'un qui n'était quasiment plus capable de parler ces derniers mots ont été « je crois, j'espère, j'aime ». Les derniers mots. Je lui ai fait le dernier signe de croix, il a pu à peine esquisser un signe de croix sur lui. Et 2 heures après, il est mort. Ça, c'est une mort édifiante. Mais en fait, c'est celle que je souhaite pour moi et que je souhaite pour les autres, en fait. Parce que c'est une mort qui est vécue en conscience. Mais je maintiens que c'est rarissime, y compris chez les chrétiens. Parce qu'on ne s'y est pas préparé. Oh bien, à bientôt, Antoine. Alors, je dis. La référence biblique sous-jacente, c'est une odeur délicieuse. C'est en fait la mort de Lazare. Et qu'est-ce qui se passe après la mort et la résurrection de Lazare? C'est l'onction à Béthanie. Et qu'est-ce qu'on nous dit sur l'onction à Béthanie? Qu'une grande odeur excellente avait empli la maison. Et qu'est-ce que dit Jésus? Ah, c'est normal, c'est parce que moi, quand je vais mourir, je vais sentir bon. Ce qui est le propre de la mort de Jésus, c'est une mort qui sent bon. Et qu'est-ce que nous dit pour Polycarpe? Eh bien, c'est pareil pour lui. Alors, c'est comme ça que vous vous retrouvez avec un modèle christologique de la mort. Alors, je continue. À la fin, voyant que son corps ne pouvait être consumé par le feu, les impies donnèrent l'ordre à un confector de venir le percer d'un poignard. Donc, comme on n'arrive pas à le brûler, donc, lorsqu'il l'eut fait, un flot de sang jaillit tel qu'il éteignit le feu. C'est extraordinaire, si on veut bien changer. Et tout le monde de la foule s'étonna qu'il y eut une telle différence entre les infidèles et les élus. Ah, voilà le point important. La mort de Polycarpe indique qu'il est élu, c'est-à-dire qu'il rejoint directement son Seigneur. Si je traduis par rapport au monde païen, ça veut dire que Polycarpe, c'est le héros. Voyez, Polycarpe, c'est le héros. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on nous dit. C'est l'un d'eux qui était devenu, lui aussi, le très admirable Polycarpe, qui fut à notre époque un maître apostolique et prophétique, et l'évêque de l'Église catholique de Smyrne. Toute parole sortie de sa bouche s'est accomplie et s'accomplira. Donc, un héros, comme Pierre, comme Paul, comme les premiers apôtres. C'est ça la chaîne. Et évidemment, comme Jésus. Je continue parce que j'accélère un petit peu parce que je voudrais quand même qu'on arrive à la fin de ce texte. Le jaloux, l'envieux, le mauvais, l'adversaire de la race des justes, voyant la grandeur de son martyr, sa conduite irréprochable depuis le commencement. Ça, c'est le héros. Qui n'était saint de la couronne de l'incorruptibilité, foi en la résurrection des morts, hein, qu'il avait remporté un prix irrécusable. En arrière-plan, moi je cours pour remporter la couronne. Saint Paul. Pris soin que nous ne puissions même pas recueillir son corps. Alors là, on arrive en pic. Alors que beaucoup parmi nous désiraient le faire et communier avec sa sainte chair. Bon, je reviendrai sur l'expression parce qu'elle est vraiment délicate. Je dis jusqu'au bout. Le démon souffla donc à Nicétès, le père d'Hérode et le frère d'Alcée, l'idée de solliciter le gouverneur pour qu'il ne rendît pas son corps. Pour qu'il n'aille pas, dit-il, abandonner le crucifié et se mettre à rendre un culte à cet homme. Et cela, à l'instigation et sur les instances des Juifs qui surveillèrent le corps quand nous allions l'enlever du feu, ignorant que nous ne pourrions jamais ni abandonner le Christ, qui a souffert pour le salut des sauvés de toute la terre, lui l'innocent pour les pécheurs, ni rendre un culte à quelqu'un d'autre. Car nous l'adorons, lui qui est le Fils de Dieu, tandis que les martyrs, nous les aimons, à juste titre, en tant que disciples et imitateurs du Seigneur, pour leur insurpassable dévotion envers leur propre roi et maître, qu'il nous soit donné à nous aussi de devenir leurs compagnons et leurs condisciples. Et je continue le dernier paragraphe, parce que les deux vont ensemble. Le centurion, donc, voyant la querelle provoquée par les Juifs, fit exposer le corps selon leur habitude et le fit brûler. Ainsi, nous, par la suite, nous recueillîmes ces os plus chères à nos yeux que les pierres précieuses et plus estimables que l'or, et nous les déposâmes en un lieu convenable. Et quand nous nous réunirons là, autant que nous le pourrons, Dans l'allégresse et la joie, le Seigneur nous permettra de célébrer le jour anniversaire de son martyre en mémoire de ceux qui ont déjà combattu et pour exercer et préparer ceux qui le feront à l'avenir. Alors là, il y a tout. Il y a tout. Alors, peut-être si on veut commencer comme ça, je ne vais pas finir ce soir de toute façon parce que j'ai trop de choses et c'est peut-être un peu riche. On va commencer comme cela. Vous voyez que ce qui est en jeu à la mort de Saint Polycarpe, c'est le corps. Il y a exactement le même procédé que pour Jésus. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans les évangiles, nous avons cette trace-là. Lorsque les pharisiens disent « Ouh là là, vous allez raconter que ce sont les disciples de Jésus qui ont pris le corps parce que voilà, il ne faut pas avoir plus que ça. Voilà. » On surveille le corps de Jésus pour éviter qu'il y ait un problème avec ce corps. C'est la même logique qu'il y a ici. Et vous voyez que la logique se poursuit lorsque les païens disent « En fait, Polycarpe, ça a l'air tellement important pour eux. » Surtout, je ne vous ai pas dit, Polycarpe, le jour de son martyr, il est très vieux. Hein. Ce n'est pas un jeune bonhomme. Hein. Ce n'est pas un excité. C'est un vieillard qui peut à peine se déplacer. Ils vont abandonner le crucifié. C'est-à-dire qu'ils vont se trouver un nouveau Dieu encore. C'est intéressant quand même ce qu'ils se disent. Parce qu'ils se disent, ils comprennent bien du coup le lien qu'il y a. Donc il y a une histoire de corps. Et qu'est-ce qu'on veut faire du coup pour éviter qu'un honneur soit rendu au corps? Eh bien, les adversaires de Polycarpe proposent de récupérer le corps. Alors que normalement, dans la loi romaine, comme dans la loi grecque, lorsque quelqu'un a été condamné à mort, sauf dans certains cas, le corps est normalement rendu à toute personne qui en fait la demande. Alors, si personne n'en veut, il se retrouvera dévoré par les vautours, mais sinon, il est rendu à toute personne qui en fait la demande. C'est exactement ce qui se passe au martyr d'Étienne. C'est raconté par les Actes des Apôtres de cette manière-là. Donc, là, on essaye de contourner la loi romaine pour éviter que les ossements ou que le corps soit repris. Alors, le corps à l'heure actuelle, puisque vous avez bien compris comment ça a marché, on n'a pas réussi à le brûler, donc c'est uniquement un coup de poignard ou de dague, enfin, ou d'épée, enfin, de quelque chose comme ça. Bon. Et qu'est-ce qui se passe? L'idée, c'est quoi? C'est de dire, s'il n'y a plus le corps, il n'y aura pas d'hommage possible rendu à ce bonhomme-là. Donc, on sera tranquille. Donc, ça veut dire que les opposants comprennent que ce qui est en jeu, c'est le corps. Quelle est la réponse des auteurs de la lettre de Saint Polycarpe, de la lettre du martyr, du récit du martyr de Saint Polycarpe? C'est-à-dire, mais en fait, c'est complètement idiot. Parce que notre foi en la résurrection des morts ne suppose pas que nous ayons un corps entier. Ça, c'est extrêmement important. Je n'ai pas besoin d'avoir le corps tout entier. Et d'accord, du coup, les gens là-bas se contentent parfaitement de l'habitude de l'époque, à savoir, j'expose le corps, ça c'est normal, un supplicié est exposé pour dire « attention, il a mal agi », et puis ensuite, je le brûle. Et comme ils ont réclamé d'avoir le corps, ils récupèrent les ossements brûlés. C'est aussi une manière pratique. Hein. C'est aussi une manière pratique. Le problème quand vous avez des morts, c'est de savoir ce que vous en faites. Ça prend de la place. En fait. C'est pour ça que les Juifs, eux, avaient tout un système de dessiccation des cadavres. J'en ai visité à Jérusalem. Ce n'est pas très ragoûtant à voir, surtout quand on comprend physiquement comment ça marche. Mais c'est le meilleur moyen pour que vos ossements tiennent dans une petite boîte transportable et que ça ne prenne pas beaucoup de place. Donc, c'est exactement ce qui se passe ici. Ils récupèrent les ossements. Mais vous voyez que le fait de récupérer les ossements n'a pas pour but de prouver la foi en la résurrection des morts. c'est autre chose qui est en jeu. C'est pour ça que j'avais fait toutes ces introductions en... Ça, c'était le point sur ce qui se passe dans ce texte. Deuxième point qui se passe dans ce texte. Manifestement, déjà à l'époque de saint Polycarpe, je répète, on est en 156, hein, donc c'est quand même très tôt dans l'histoire de l'Église. Il y a déjà une habitude qui est prise de se réunir autour des corps, au moins des martyrs. Sinon, le problème est incompréhensible. Parce que qu'est-ce que comprennent les opposants? Ils comprennent que si on a un corps, on va rendre un culte à cet homme. Réponse des chrétiens, c'est absurde, ils ne comprennent rien. Parce qu'on ne rend pas un culte à cet homme, nous adorons le Fils de Dieu uniquement. Mais voyez, cette incompréhension, c'est aussi celle de nos contemporains. Surtout qu'on est tout de suite obligé de rentrer dans les détails techniques. Voyez, nous l'adorons, lui qui est le Fils de Dieu, tandis que les martyrs, nous les aimons à juste titre. En distinguant adorer, parce que tu n'adoreras que ton Dieu, et aimer, voilà. Je ne ferai pas ce texte-là parce qu'il est peut-être trop dogmatique, mais c'est exactement ce que dit saint Augustin quand il dit « Tu n'adoreras que ton Dieu et tu rendras un culte de douli, de serviteur au saint. » Et ça, c'était peut-être le premier point. Donc du coup, si je vénère le martyr, c'est uniquement parce que c'est un disciple et imitateur de Dieu. Donc ça ne prend jamais la place de Dieu. Donc dans le culte des reliques, on a là un élément décisif qui est mis en place. Il ne s'agit jamais de confondre Dieu et ses saints. Comme m'avait dit un chargé de TD à la Sorbonne quand j'étais prêtre, il m'avait répondu, il ne vaut mieux s'adresser à Dieu qu'à ses saints. Traduction, votre question regarde le professeur de cour magistrale et pas le chargé de TD. Non, et c'est de ça dont il s'agit en fait. Est-ce que Dieu a la priorité ou pas la priorité? Les chrétiens de Smyrne disent Dieu a la priorité. Tout dernier point pour ce soir, et ça sera le point, dernier point sur le culte des reliques, qu'il nous soit donné à nous aussi de devenir leurs compagnons et leurs condisciples. Vous voyez, le culte des reliques, c'est un, ça n'est pas une atteinte à Dieu, et deux, plus important, il s'agit que nous nous devenions à leur suite leurs consorts et leurs condisciples. C'est-à-dire qu'à leur suite, nous soyons le martyr comme saint Polycarpe, ou à tout le moins que nous ayons le même sort final. Le même sort final, c'est-à-dire que nous soyons élus comme lui. Et si je me traduis en vocabulaire païen, que nous devenions nous aussi des héros. Alors, il est 8h30, donc c'est l'heure de s'arrêter. Je suis encore trop parlé, je suis désolé. Je trouve une autre manière de faire. Mais la prochaine fois, je vais rester sur l'Église ancienne parce qu'elle est importante. Ça veut dire que je reprendrai en fait ce texte-là parce que je n'ai pas encore tout dit. Enfin, il y a encore d'autres éléments à mettre en place. Et ensuite, on pourra voir du coup comment se met en place le culte des reliques des martyrs. Et après, on avancera tranquillement. J'essaye d'avoir le temps de réparer ma vidéo, comme ça, ça sera un peu moins austère que j'aurais l'impression que je ne fais pas tout le temps la tête, en fait. Et... Bon, eh bien, bonne soirée à chacun, et puis, donc, et bonne semaine aussi.
Super.
Merci beaucoup.
Super. Merci beaucoup.
Merci.